Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Bonsoir. L'annonce a été faite lundi, après avoir reçu des représentants des syndicats étudiants et lycéens. Le Premier ministre, Manuel Valls, a fait savoir qu'un amendement au projet de loi travail allait rendre obligatoire la modulation des cotisations patronales d'assurance chômage, ce qui veut dire plus prosaïquement que les contrats courts, type CDD ou intérim, vont coûter plus cher aux employeurs. L'objectif est toujours le même, lutter contre le chômage et surtout favoriser l'embauche en CDI, en contrat à durée indéterminée. Car en France, si 87% des salariés sont aujourd'hui en CDI, les CDD et l'intérim représentent plus de 90% des embauches. Alors, la surtaxation des CDD sera-t-elle vraiment efficace? C'est le débat de ce soir. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce studio deux invités. William Martinet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes président de l'UNEF, premier syndicat étudiant, qui est en pointe de la mobilisation contre la loi travail qui a démarré il y a plus d'un mois. Il y a encore eu des manifestations ce jeudi. Vous êtes pour la surtaxation des CDD. Vous allez nous expliquer pourquoi. Deuxième invité, Éric Heyer, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en économie, directeur du département analyse et prévision de l'OFCE. Vous êtes aussi enseignant à Sciences Po Paris et vous êtes plus réservé. Vous allez nous expliquer. Mais d'abord, vous, William Martinet, je le disais, c'est après vous avoir reçu, vous, l'UNEF, mais aussi d'autres organisations étudiantes et lycéennes, que le Premier ministre a annoncé des mesures pour l'emploi lundi. Parmi elles, la surtaxation des CDD. Pour vous, c'était une bonne nouvelle?
Alors, je me permets juste en quelques mots, c'est à la suite de cette rencontre avec le Premier ministre, bon, c'est surtout à la suite d'un mois de mobilisation des jeunes que nous avons obtenu cette annonce sur la surcotisation des CDD, une annonce avec d'autres mesures pour l'insertion professionnelle des jeunes. Ce qu'on a réussi à obtenir, c'est aussi la question du prolongement du droit à bourse pour les premiers mois d'insertion professionnelle, une revalorisation des bourses étudiantes et lycéennes, et aussi un plan de création de places dans les BTS, c'est-à-dire dans la formation professionnelle.
Donc effectivement, cette question... plusieurs mesures, mais sur celle de la surtaxation des CDD, c'était quand même, c'est un combat qui est pas nouveau, et là-dessus, vous vous êtes dit satisfait.
Tout à fait. Ben, on pense que c'est une mesure non pas révolutionnaire, parce que je ne pense pas qu'à elle toute seule, cette mesure peut régler le problème de la précarité sur le marché du travail, notamment pour les jeunes. Mais je pense que c'est une mesure importante, puisque finalement, le constat qu'on fait, ce sont les chiffres que vous avez donnés. Il y a une part extrêmement importante des recrutements qui se font avec des contrats précaires, pas uniquement, mais beaucoup avec des CDD. Et donc, ces recrutements en contrats précaires, ils concernent en particulier les jeunes. Quand vous regardez le parcours d'insertion d'un jeune, c'est, selon leur niveau d'études, de 3 à 5 ans, qui est une période finalement de très forte précarité où les jeunes multiplient intérim, CDD très court, période de chômage, stage, service civique aussi, maintenant de plus en plus. Donc finalement, on explique aux jeunes de ce pays qu'après la fin de leurs études, avant d'enfin accéder à un CDI, à un emploi stable, avant de pouvoir construire leur vie, il faut qu'ils passent par ce temps de bizutage social où leurs droits sont au rabais.
Alors,
donc ce qui est l'objectif pour nous, avec cette question de la surcotisation, c'est d'avoir une politique publique qui explique aux employeurs, quand vous participez à la précarité des jeunes avec des CDD extrêmement courts, vous payez plus cher et inversement, parce que c'est ça l'objectif de la mesure, c'est de favoriser les embauches quand elles se font en CDI et donc avec des emplois stables.
Alors maintenant je voudrais avoir votre réaction Éric Heyer, mais on va juste avant écouter un petit son, celui de Jean Hude Duménil qui est le président de la CGPME.
Ça serait une erreur majeure. Et puis, naturellement, ça serait prendre le problème par le mauvais côté. Vous savez, en France, la tendance naturelle quand on est en situation de blocage et qu'on ne sait pas comment s'en sortir, c'est d'augmenter les impôts. Ben voilà, là, on serait sur une basse recette de cuisine en disant on est bloqué, on va augmenter les cotisations sur les entreprises. Mais en faisant ça, attention quand même, parce que ça veut dire qu'on va augmenter le coût du travail et ça veut dire qu'on va pénaliser la création d'emplois. Et on pourrait peut-être s'interroger aussi, savoir pourquoi aujourd'hui la très grande majorité des chefs d'entreprise embauchent en CDD et non pas en CDI.
Jean-Yves Duménil chez nos confrères de France Info. Éric Heyer, qu'est-ce que vous en pensez de la surtaxation des CDD?
Alors vous voyez que, bon, allez. Je suis d'accord tout de même avec l'idée que si on augmente le coût du travail, mécaniquement, ça va avoir un effet relativement négatif sur l'emploi. Alors maintenant, il faut avoir le bon usage et le mauvais usage du CDD. C'est-à-dire que le bon usage du CDD, c'est lorsque vous l'utilisez parce qu'il y a un congé maternité, parce qu'il y a un congé maladie, parce qu'il y a une visibilité de l'activité qui est relativement faible. Mais ça, c'est un usage normal. Et donc, quand c'est fait de façon conjoncturelle, il faut surtout pas dissuader les entreprises de le faire parce que ça, effectivement, ça maintient un certain nombre d'emplois emploi.
C'est après, d'ailleurs la fonction initiale.
Et c'est la fonction initiale. Alors maintenant, il y a la mauvaise utilisation, et c'est aujourd'hui, on a l'impression qu'effectivement, la mauvaise utilisation est en train de l'emporter sur la bonne, c'est que tendanciellement, donc c'est plus conjoncturel, c'est la tendance, c'est que maintenant, la norme devient de plus en plus le CDD, et un CDD extrêmement court, et on renouvelle les CDD sur les CDD avec une petite période de carence, etc. Et donc, effectivement, si c'est ça, la mauvaise utilisation, il faut essayer de la taxer. Mais vous voyez, essayer de distinguer, on va essayer de taxer que la mauvaise utilisation et pas la bonne, ça va être extrêmement compliqué. Donc je pense qu'il faut le prendre de l'autre côté, et pas du côté du gouvernement, mais du côté des partenaires sociaux, c'est que moi, ce qui m'en gêne, et ce qui me gêne énormément avec les CDD courts, c'est que c'est ça qui coûte extrêmement cher à l'assurance chômage. C'est les allers-retours entre l'emploi et le chômage qui coûtent très cher. Et donc, là maintenant, on est assez clair sur les chiffres de l'Unédic, et ça coûte entre 4 milliards 800 000 à peu près 7 milliards d'euros chaque année à l'assurance chômage. Donc effectivement, on peut se dire que puisque c'est ça qui coûte cher, on pourrait faire effectivement une sorte de pollueur-payeur, c'est-à-dire qu'effectivement ceux qui polluent un peu plus, donc ceux qui coûtent très cher, payent parce que ils coûtent cher à la société, et on va pas taxer l'intégralité des entreprises, celles qui sont vertueuses dans CDI. Donc on pourrait effectivement, et comme ça, on contrerait l'argument de la CGPME, dire on n'augmente pas les prélèvements obligatoires, c'est-à-dire qu'on augmente la cotisation sur les CDD et on les baisse sur les CDI. Donc ça ferait à prélèvement obligatoire inchangé, mais on taxe un peu plus ceux qui polluent. Mais on voit bien que ça, c'est pas le gouvernement à trancher, c'est les partenaires sociaux. Et il me semble que c'est une autre façon. Donc c'est utiliser la fiscalité pour essayer d'aller vers un comportement plus vertueux des entreprises.
Alors on va y venir sur comment est-ce qu'on pourrait aménager la mesure, mais je voudrais d'abord vous faire réagir sur cette distinction, William Martinet, entre le bon usage et le mauvais usage du CDD. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on pourrait...
Je crois que c'est un point de vue qu'on partage. Et finalement, vous l'avez dit, l'objectif du CDD, normalement, c'est de répondre à des besoins très précis sur le marché du travail. Un salarié en congé formation, en congé maternité, une mission qui, par définition, a une durée qui est définie dans le temps. Mais ce qui est paradoxal, c'est que vous racontez ça à un jeune qui est en insertion aujourd'hui, vous lui dites, tu sais, le CDD, normalement, c'est pour remplacer un salarié qui est en congé maternité. Les jeunes qui sont sur le marché du travail actuellement, ils y croient pas. Pourquoi ? Parce que il y a eu effectivement ces dernières années une tendance, mais qui est quand même une tendance lourde. On parle d'une évolution sur le marché du travail de plusieurs décennies.
Vous auriez d'ailleurs un ratio, peut-être, Eric Heyer, sur CDD, mauvais CDD dans l'usage ?
Non, on ne sait pas distinguer, mais globalement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les CDD de moins d'un mois représentaient à peu près 45% des embauches en 2000. Alors malheureusement, les statistiques commencent qu'en 2000 de ce point de vue-là. Aujourd'hui, ça représente 70%. Voilà. Donc effectivement, en l'espace de 15 ans, on est passé d'un ratio de quasi 1 sur 2 à maintenant 1 sur...
Donc, on est finalement dans un déplacement du rôle du CDD sur son marché du travail de remplacement de salariés qui sont plus disponibles vers finalement un outil de précarisation et en particulier des jeunes au moment de leur insertion professionnelle. Donc je crois que c'est ça l'objectif de la mesure sur les CDD. Vous l'avez dit à très juste titre, on va passer par la case partenaires sociaux. Moi je pense que c'est important que avant ce dialogue entre les partenaires sociaux que le gouvernement s'engage, puisque quand on a un gouvernement qui prend une telle position, ça change.
C'est là qu'il faut peut-être expliquer aux auditeurs. C'est-à-dire que le gouvernement a promis qu'il allait tout faire pour aller vers la surtaxation de ces CDD, mais en fait, il n'a pas le pouvoir de le faire. C'est aux partenaires sociaux de le décider, de le valider.
Si on veut être vraiment précis, l'enjeu de cette surcotisation sur le CDD, c'est la question de l'assurance chômage, c'est la question de la convention Unédic. Et donc, on a des partenaires sociaux qui, d'ailleurs, là, en ce moment même, sont en train de négocier cette convention assurance chômage. Donc, partenaires sociaux, ça veut dire les syndicats de salariés et le patronat, qui soit ils arrivent à se mettre d'accord sur cette convention assurance chômage, soit s'ils n'y arrivent pas, c'est à l'État, c'est au gouvernement de prendre ses responsabilités. Et c'est pour ça que cet engagement du gouvernement, même si évidemment il ne résout pas tout, il est quand même extrêmement important, puisque quand on a un gouvernement qui s'engage déjà par la loi à faire que cette modulation elle soit obligatoire, et surtout qui prend un engagement politique d'augmenter cette surcotisation, ça fait évoluer quand même un peu les rapports de force dans les discussions entre partenaires sociaux. Vous l'avez entendu, la CGPME n'est pas contente face à ça. Et donc, je pense que ça donne plus de moyens, notamment aux syndicats de salariés qui, eux, défendent cette mesure depuis longtemps. Ça leur donne plus de moyens pour que, à la fin, dans cette convention Unédic, on ait une bonne modulation dont, effectivement, les partenaires sociaux auront à définir le périmètre précis et exact.
Alors, Eric Heyer, est-ce qu'il n'y a pas quand même une grande contradiction entre cet engagement du gouvernement et la décision qui a été prise par le gouvernement l'été dernier, été 2015, de faire passer de 1 à 2 le nombre de renouvellements possibles de CDD.
Oui, enfin, effectivement.
On a un peu l'impression d'avoir une politique qui fait un pas en avant, deux pas en arrière.
Ça sera pas la première fois, mais malheureusement, effectivement, on peut comprendre un peu le désarroi et la confusion des partenaires sociaux et même des chefs d'entreprise. On sait pas exactement dans quel sens on va, mais effectivement, la problématique, moi, qui me semble assez nette, c'est qu'on veut flexibiliser le marché du travail en France. Enfin, quand je dis on, c'est le gouvernement veut flexibiliser le marché du travail en France. On sait que si on va vers la flexibilisation du marché du travail en France et qu'on ne fait que ça, on sait que les effets dans un premier temps, sont forcément négatifs. À long terme, on n'en sait rien, mais à court terme, on sait que c'est négatif. Et donc, ce qu'il faut faire quand on flexibilise, c'est qu'il faut accompagner par des mesures de sécurisation ou de sécurité. Alors, le modèle danois, qui va très loin là-dedans, nous explique que il faut payer plus cher les personnes qui sont au chômage, c'est-à-dire que c'est comme ça qu'on sécurise. Et puis le modèle anglo-saxon, c'est il faut faire des politiques macro extrêmement expansionnistes. Quand ça va mal, il faut laisser filer les déficits, il faut faire une politique monétaire. On ne peut pas aller vers la flexibilité, la flexisécurité anglo-saxonne. On ne veut pas aller vers la danoise parce que ça coûte très cher en termes de prélèvements obligatoires. Et donc, il faut qu'on trouve notre propre flexisécurité. Moi, c'est plutôt ça qui me dérange. Et il y a eu un point qui était, me semble-t-il, intéressant et qui n'a pas été rappelé. C'est que, globalement, on peut vivre dans un monde en CDD, mais pas avec la société française d'aujourd'hui. Pourquoi pas?
Par exemple, aux difficultés pour trouver un logement?
Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on est en CDD, on n'a pas accès au logement, on n'a pas accès au crédit bancaire. Et donc, on sait que dans ces conditions-là...
Juste pour nos auditeurs, pour que ce soit clair, parce qu'on n'est pas écouté que par des Français qui connaissent ce genre de problème. C'est vrai qu'en France aujourd'hui, si vous voulez souscrire un prêt à la banque pour acheter un appartement, si possible soit-il, on va vous demander d'avoir un CDI. Et comme on l'a vu dans les chiffres, aujourd'hui, les jeunes n'ont globalement pas beaucoup de CDI.
Alors, pas que les jeunes d'ailleurs, et c'est ça le problème. Et donc, du coup, il faut ces mesures-là. Et donc, il faudrait, mais là, il y a eu une esquisse peut-être de solution quand le gouvernement propose peut-être une garantie logement. Alors, c'est que pour les jeunes, mais il faudrait adapter notre société au CDD. Donc ça serait une autre piste. C'est-à-dire que si on veut pas surtaxer, il faut dire aujourd'hui, qu'on soit en CDD ou en CDI, en fait, globalement, on n'a pas trop de problèmes pour accéder au crédit, pour accéder au logement. Et donc, on arrive et donc, cette période de transition, on la passe beaucoup plus facilement. Et donc, ça serait là-dessus qu'il faudrait travailler. C'est des garanties de l'État.
Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que d'agir sur une mesure, ça n'a de toute façon aucun effet.
Non, mais on pense que la surtaxation n'est pas la bonne solution, alors travaillons sur les d'autres modèles de sécurité. Et ça peut être soit des indemnisations chômage plus importantes quand on fait des allers-retours au chômage et donc un revenu plus important, soit des garanties logement et des garanties bancaires. Enfin, faire en sorte que la vraie précarisation sur le marché du travail ne se retrouve pas et en tout cas soit diluée par des garanties de l'État.
Alors, William Martinet, il y a d'autres pistes qui sont évoquées en marge ou pour remplacer cette éventuelle surtaxation des CDD. Ce serait de taxer les entreprises selon le pourcentage de CDD ou de CDI dans leur entreprise. Alors, c'est notamment une proposition de Force Ouvrière, un syndicat. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça, ce serait pas une manière de responsabiliser les employeurs, les entrepreneurs?
Écoutez, je crois que à partir du moment où l'objectif est le même, on est typiquement sur le débat qui concerne les partenaires sociaux. Où autant moi en tant que représentant du syndicat étudiant, ça me semble extrêmement important d'avoir une politique publique qui favorise le CDI et qui pénalise le CDD. Sur la mise en place de ces mesures, je pense que les partenaires sociaux ont un rôle extrêmement important à jouer. Donc ça peut se faire de plein de façons différentes. Je pense que ce qui est le plus important, c'est aussi un peu de retenir les leçons de la précédente modulation qui a été mise en place avec l'ANI en 2011, qui à mon avis avait deux problèmes, un niveau de surcotisation.
Attendez, vous allez très vite là, vous partez aussi du principe que tout le monde sait. Donc en 2014 effectivement, les partenaires sociaux, puisqu'il s'agit d'eux, avaient décidé de relever la part patronale des cotisations des contributions chômage de 0,5 à 3 points sur les CDD de moins de 3 mois. Ça n'avait pas beaucoup marché, mais on n'a pas beaucoup de recul non plus, puisque la proportion des CDD avait augmenté de 2 points pour dépasser 85% et le taux de chômage avait lui pris un point pour avoisiner les 25%.
Tout à fait. Et je pense à ce moment-là, deux problèmes. Un niveau de surcotisation qui n'était pas suffisant pour être incitatif. Et puis aussi et surtout, une mesure dont le périmètre n'était pas satisfaisant. Puisque l'intérim, qui était aussi une forme d'emploi extrêmement précaire, en était exclu. Mais aussi ce qu'on appelle les CDD d'usage, qui sont en fait les CDD complètement dérogatoires à ce qu'on disait tout à l'heure sur remplacement d'un salarié, etc. Ces CDD d'usage avaient une surcotisation de 0,5 points. Donc en fait, aucune mesure réelle. Donc ce qui me semble important, c'est voilà de tirer les leçons de ce qui a été un échec relatif et de faire que cette modulation, cette fois, elle puisse bien couvrir le bon périmètre et que surtout, à la fin, elle ait un impact sur la norme d'emploi en particulier des jeunes.
Éric Ayer, vous êtes d'accord si on part de cette expérience de 2014 et si on se dit on intègre moins d'exceptions, on intègre l'intérim, là, ça pourrait fonctionner?
Oui, non, en tout cas, on peut pas dire que ça n'a pas fonctionné parce que ça n'a pas été appliqué, en fait. Hein. Globalement, si vous mettez autant d'exceptions que de CDD, effectivement, on n'a pas surtaxé les CDD. Donc, on peut pas dire, regardez, on l'a mis en place, ça n'a pas fonctionné. Non, on n'a pas mis en place parce qu'on a mis beaucoup trop d'exceptions. C'est peut-être un souci en France. C'est-à-dire que, effectivement, puisqu'on n'a pas, on a en tête qu'il y a des bons CDD, les mauvais CDD, on a toujours une bonne raison pour en enlever. Mais si on enlève tout le monde, ben, ok, on taxe pas. Donc, effectivement, il faut avoir le courage de dire, ben voilà, on y va. Encore une fois, il y a l'alternative. L'alternative, c'est de dire maintenant être en CDD, c'est pas un problème. Et donc, il faut changer la société, il faut faire des garanties. Mais si tant qu'on ne change pas cela, effectivement, la surtaxation, mais avec le bonus-malus, moi c'est peut-être la seule nuance que j'apporterai avec ce gouvernement, c'est que il faut rendre le CDI un peu plus attractif dans ces cas-là. Et donc, il faut raisonner à prélèvement obligatoire inchangé. Et donc,
la taxation des entreprises selon le pourcentage de CDD ou de CDI, vous dites.
Oui, ça c'est intéressant. Effectivement, on a une fiscalité importante, il faut l'utiliser, cette fiscalité importante, pour essayer de guider les entreprises vers un comportement qui nous semble, enfin nous, quand je dis nous, c'est l'État, plus vertueux. Et donc surtaxer les CDD et en contrepartie faire un bonus pour ceux qui sont en CDI, ça me semble être une bonne idée.
C'est un peu paradoxal parce que là on parle de surtaxation comme si elle n'existait pas. Mais finalement, aujourd'hui déjà, un CDD coûte plus cher qu'un CDI puisqu'il y a la fameuse prime de précarité des 10%. Oui, est-ce que ça démontre pas l'inefficacité de la fiscalité, Éric Ayer?
Typiquement, sur les contrats d'usage, il n'y a pas de surtaxation. Donc vous voyez que tous les CDD n'ont pas de cette surtaxation. Et alors, aujourd'hui, il y a quand même, c'est peut-être un peu compliqué à expliquer en deux minutes, mais aujourd'hui, globalement, on peut utiliser les allers-retours à l'assurance chômage, et donc les jours de carence peuvent être considérés comme des jours chômés, et donc l'indemnisation, et donc à certains égards, ça ressemble aux intermittents du spectacle, et donc du coup, les entreprises l'utilisent comme les intermittents du spectacle, à savoir qu'ils intègrent dans les revenus qu'ils versent à leurs salariés le fait qu'ils vont toucher une indemnisation, et donc la petite surtaxe de 10% qui existe pour certains CDD, est finalement largement compensée par le fait qu'ils peuvent mettre des salaires un peu plus bas parce que ils intègrent et ils indiquent alors à ces salariés-là qu'ils vont toucher des indemnités chômage pendant leurs jours de carence. Donc l'un dans l'autre, ça coûte pas extrêmement, beaucoup plus cher. En tout cas, ça les dissuade pas. La preuve, c'est qu'il y a une tendance à la hausse.
Alors, William Martinet, je voudrais encore vous faire réagir sur une autre proposition sur ce thème, c'est de faire décroître le niveau de cotisation. Donc là, on parle de cet instrument de la fiscalité suivant la durée du contrat. Est-ce que ça aussi, c'est pas une piste qui pourrait être intéressante et peut-être plus efficace que celle de la surtaxation du CDD? Alors, ne me dites pas, comme tout à l'heure, que c'est encore aux partenaires sociaux d'en décider. Vous avez probablement une opinion
sur
le sujet.
Je crois que surtout, c'est pas contradictoire. La façon dont la surcotisation était déjà pensée jusqu'à présent, c'était de façon décroissante en fonction de la durée du CDD. Les CDD d'un mois, c'était 3% de surcotisation. Les CDD de moins de 3 mois, par contre, c'était 1,5%. Et encore une fois, je mets de côté tous les trous dans la raquette, les CDD qui n'étaient pas concernés. Donc ça me paraît tout à fait une politique possible. Avec, ça a été dit, la question de l'inversement, comment on surcotise, donc on pénalise le CDD, mais comment on favorise l'embauche en CDI, puisque il faut quand même revenir à cette réflexion-là. Nous, ce qui nous intéresse pour les jeunes qui sont en insertion professionnelle, au-delà de comment les employeurs qui embauchent avec des CDD très courts sont pénalisés, l'enjeu c'est surtout comment les jeunes de ce pays, ils arrivent à rentrer un petit peu plus facilement dans l'emploi stable et dans l'accès au CDI. Donc c'est évidemment un objectif à à pas perdre de vue.
Alors, il nous reste quelques secondes, mais une question à 1000 euros, Eric Ayer. Si jamais on arrivait à bien revoir cette fiscalité, vous pensez qu'on pourrait baisser le chômage de combien? En gros, c'est 25% le chômage des jeunes en France.
Oui, alors enfin, on pourrait revenir sur ce taux de chômage, mais moi, je pense que dans un premier temps, ça ne crée pas d'emploi. Ça fait juste, ça passe de CDD à CDI. Et donc, ça permet tout de même d'avoir, à terme, un peu plus de consommation parce que le taux d'épargne sera plus faible. Et donc, ça fera plus de croissance et donc plus d'emplois liés à cela. Mais il ne faut pas s'attendre à des miracles en termes d'emploi. Mais juste, c'est une insertion qui est plus meilleure pour les jeunes.
Merci beaucoup, Eric Ayer, docteur en économie. William Martinet, président de l'UNEF.
Merci.
Tout de suite, un nouveau journal.